La première intervention sera réalisée par Sophie Pamerlon, qui est ingénieure en charge des données de biodiversité du GEBI France, qui est le point nodal français du réseau international. Donc GEBI France, le GEBIF, un système mondial d'information sur la biodiversité. Sophie Pamerlon est chargée d'apporter un appui technique et scientifique aux détenteurs de données primaires sur la biodiversité et de les accompagner dans le processus de rédaction et de soumission d'un data paper. Elle participe également au groupe de travail sur les standards d'échange de données et métadonnées et assure enfin des formations sur la qualité et la publication des données et data paper. Je lui laisse la parole pour présenter cet exemple d'intégration du data paper à un workflow de publication de jeux de données.
Merci Stéphane. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, d'accord. Alors, sans plus tarder, je vais donc commencer cette présentation sur les data papers appliqués notamment au domaine de la biodiversité. Comme l'a présenté Stéphane avant moi, il existe pas mal maintenant d'outils qui permettent d'appuyer la rédaction et la soumission de data papers. Donc, je vais vous présenter ce qui se fait au sein du réseau GEBIF et avec ses partenaires, donc notamment la maison d'édition Pensoft, qui s'est associée très tôt avec le GEBIF au tout début des années 2010, pour mettre en place un workflow intégré de publication à la fois des données et des articles les décrivant. Alors, je commence par une présentation très brève du réseau GEBIF et de ses outils pour mieux comprendre un petit peu le contexte de publication des données et donc par la suite des articles qui les décrivent. Voilà. Donc, le réseau GEBIF, à l'heure actuelle, ça a toujours été un programme intergouvernemental qui a été créé en 2001 à l'initiative du comité scientifique de l'OCDE. Et donc, à l'heure actuelle, en 2020, il comporte 60 pays et 38 organisations membres qui sont donc répartis un peu partout sur la planète. Alors, ça met un petit peu de temps à charger chez moi. Voilà. Donc là, sur cette diapositive, vous voyez la page d'accueil actuelle du site www.gbif.org. Donc, si vous souhaitez aller consulter le site et surtout accéder aux données et aux jeux de données qui sont accessibles en ligne, n'hésitez pas à suivre cette URL ici. Donc c'est un site qui propose à l'heure actuelle plus d'1,6 milliard de données primaires sur la biodiversité. Donc ce qu'on appelle données primaires, ce sont des données non traitées. Elles sont traitées au niveau de la qualité et de la fiabilité, mais ce ne sont pas des résultats d'analyse. Ce sont vraiment des données brutes qui proviennent de différentes institutions. Donc ça peut être à la fois des instituts de recherche, des muséums d'histoire naturelle par exemple, mais également énormément de données d'observation, en plus des données de collection. Donc des données d'observation naturaliste qui proviennent d'associations ou de réseaux d'observation de la nature. Et donc vous voyez en bas à droite de ces diapositives la carte des données géoréférencées. Donc vous voyez qu'il y a déjà énormément de données géoréférencées disponibles, quel que soit l'endroit du globe que vous souhaitez étudier. Alors, un des principes fondateurs du GEBIF, c'est de donner un accès libre et gratuit aux données primaires de la biodiversité. Et ça se retrouve donc dans les principes FAIR que Stéphane a mentionné tout à l'heure. Donc FAIR pour Findable, Accessible, Interoperable et Reusable. Donc le GEBIF suit ces principes et y adhère bien sûr depuis très longtemps, depuis le début. Je vais vous montrer un peu plus en détail quels sont les processus mis en place pour suivre ces principes FAIR. Donc la première chose, c'est l'attribution de DOI ou Digital Object Identifier. Donc on va en parler assez souvent, je pense, pendant ce webinaire. Donc ce sont des identifiants pérennes qui sont attribués par le GEBIF aux jeux de données publiés, sauf si ces jeux de données possèdent déjà leur propre DOI, comme c'est le cas pour certains datasets. Il y a également des DOI qui sont attribués pardon, au téléchargement des données par les utilisateurs. Donc ça, c'est assez utile si vous faites des téléchargements, excusez-moi pour le bruit, des téléchargements de données que vous souhaitez les citer dans un article, vous pouvez citer le DOI de ce téléchargement. Et donc, bien sûr, des DOI qui sont attribués aux data papers qui décrivent des jeux de données publiés dans le GEBIF notamment. Il y a également toute une consultation qui a été faite au niveau des licences de partage des jeux de données. avec un consensus et un choix de licences assez réduit qui suivent donc les licences Creative Commons qui sont donc qui sont laissées au choix des fournisseurs de données, mais il faut en choisir une des trois, donc soit la licence CC0, CC BY ou CC BY NC. Au sein du réseau GBIF, on utilise beaucoup de standards. Donc moi, pendant cette présentation, je vais beaucoup parler du standard EML, le standard qu'on utilise pour partager des métadonnées. Mais bien sûr, on utilise des standards comme le Darwin Core ou ABCD pour partager et formaliser les jeux de données eux-mêmes. Le GBIF met également beaucoup d'outils en place pour l'accessibilité des données. Donc sur le portail gbif.org, vous pourrez faire des requêtes interopérables, obtenir des cartes interactives, des téléchargements gratuits des données. Et il y a également des web services qui peuvent être assez intéressants pour récupérer les données et les réutiliser d'une autre façon que par l'interface utilisateur. Et enfin, pour la publication des données, on propose plusieurs outils, notamment l'IPT que je vais beaucoup évoquer. Pardon. Pendant cette présentation, IPT pour Integrated Publishing Toolkit, qui permet de publier dans le réseau GBIF et d'héberger donc à la fois les données et les métadonnées qui les décrivent. Alors, sur cette diapositive, vous voyez le schéma vraiment assez basique du processus de publication des données et des métadonnées qui leur sont associées dans le réseau GBIF. Donc, on part toujours des jeux de données donc, qui sont fournis par les éditeurs de données, par les fournisseurs de données. Donc, ces jeux de données peuvent être assez différents. On a principalement des jeux de données d'occurrence, mais on a également des jeux de données taxonomiques, donc des listes taxonomiques de référence, par exemple. Et il est également possible de publier uniquement des métadonnées pour décrire un jeu de données qui n'est pas encore prêt à être publié. Dans les jeux de données d'occurrence, on peut aussi associer maintenant depuis quelques années les jeux de données d'échantillonnage, qui sont des jeux de données un peu plus complexes, permettant de détailler les protocoles de collecte des données, par exemple. Ensuite, la deuxième étape, c'est de formater les données donc suivant un des standards utilisés au sein du réseau. Donc, on utilise principalement en France le standard Darwin Core. Et cet outil, l'IPT, va permettre de formater ces données et de les générer dans un format qui est accepté par le GBIF, qui va donc les moissonner une fois que ces données seront publiées sur l'IPT, les données et métadonnées, hein, bien sûr. Et une fois qu'elles seront moissonnées, elles apparaîtront sur le GBIF et seront consultables et réutilisables par tous. Donc, au niveau des standards d'échange, un petit point très rapide sur les standards. Donc là, vous voyez que pour tout ce qui est données d'occurrence, données taxonomiques, données d'échantillonnage, on peut utiliser le Darwin Core ou le langage ABCD. Et pour les métadonnées, donc la description des jeux de données, on retrouve l'EML, Ecological Metadata Language, qui permet une description riche des jeux de données et qui est donc le profil de métadonnées qui a été adopté depuis de très nombreuses années par le GBIF. Alors là, je vais approfondir un petit peu les data papers. Donc, qu'est-ce qu'un data paper et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, la première question qu'on peut se poser, même si maintenant on parle de data paper depuis quelques années maintenant, c'est qu'est-ce que c'est exactement qu'un data paper? Donc, c'est tout simplement une publication scientifique dont le but est de décrire un jeu de données ou un ensemble de jeux de données plutôt que de rendre compte d'analyses et de résultats de recherche. Donc c'est vraiment très utile pour mettre en valeur les jeux de données et ainsi que le temps passé par les équipes de recherche, donc à la fois les chercheurs, mais comme disait Stéphane avant moi, les personnels techniques, les gestionnaires de données par exemple, ou les personnes qui ont alimenté les bases de données ou qui ont structuré, nettoyé et contribué à la mise en ligne de ces données. Donc un data paper permet aussi de mettre en valeur voilà ces actions et ces personnels qui ne sont pas forcément mis en avant dans les articles de recherche classique. Donc, comme toute publication scientifique, un data paper est publié dans une revue scientifique à comité de lecture. Et donc, en bas de diapositive, vous voyez une simplification vraiment très simplifié du processus de rédaction et de publication d'un data paper. Donc, on part d'un document de métadonnées. Donc, là, c'est très petit, mais c'est la page de remplissage des métadonnées sur l'outil IPT du GBIF. Et suite à quelques étapes, on arrive à un data paper, un véritable article scientifique qui est publié dans une revue scientifique à comité de lecture. Donc là, je vais peut-être pas répéter ce que je viens de dire, parce qu'en fait, c'était également écrit sur cette diapositive, mais voilà, depuis le développement des bases de données et des projets d'informatisation des données, il y a eu une consultation, et là, tout le monde s'accorde à dire que le temps passé à informatiser les données est très, très mal mis en valeur. Et donc, c'est pour ça qu'en 2011, et quelques années avant ça, le GBIF et les éditions Pensoft s'étaient associés pour aboutir à la création des data papers pour mettre en valeur ces jeux de données dans le domaine des données primaires de biodiversité. Alors, les avantages d'un data paper, donc là vous voyez une capture d'écran d'un article tel qu'il est publié dans une revue à comité de lecture. Donc évidemment, on va retrouver un DOI qui va permettre de le citer et de l'indexer et de le retrouver plus facilement au niveau des moteurs de recherche. Le titre, donc comme tout titre de publication qui permet de promouvoir et de faire connaître les données. Également la liste des auteurs, donc comme le disait précédemment, les auteurs, contrairement à un article habituel, ne sont pas forcément uniquement des chercheurs, ça peut aussi être des personnels techniques de laboratoire. Et au niveau du contenu lui-même du data paper, on va retrouver la description des données telle qu'on peut l'avoir dans un fichier EML, mais cette fois sous une forme structurée et lisible par un humain. Donc c'est quand même plus agréable de lire une description de données structurée avec des paragraphes et des sous-catégories plutôt qu'un fichier EML avec des balises et qui est très, très, très intéressant pour diffuser des métadonnées d'ordinateur à ordinateur, mais qui est un peu plus fastidieux à lire à l'œil nu. Donc voici de nouveau une capture d'écran de l'IPT, un petit peu plus lisible cette fois j'espère, qui est donc l'outil de publication des données et métadonnées dans le réseau GBIF. Et la partie métadonnées de l'IPT facilite le remplissage de ces métadonnées et la production automatisée d'un manuscrit de data paper. Donc, je ne vais pas m'étendre sur toutes les sous-catégories de métadonnées qu'on peut remplir, mais vous voyez là, sur la colonne de droite que c'est assez complet et que donc, en fonction des cas, alors toutes les catégories ne sont pas obligatoires, mais si vous souhaitez bien écrire vos données, vous pouvez compléter sous-catégorie par sous-catégorie. Et ce temps passé à compléter les métadonnées, bon, on sait que c'est toujours un peu fastidieux et pas forcément très intéressant, mais dites-vous que si vous remplissez bien les métadonnées à cette étape, ça sera toujours ça de moins à faire au moment de la rédaction du data paper. Alors pour continuer, donc ça c'est toujours sur l'IPT, voici la page d'un jeu de données une fois qu'il a été publié sur l'IPT. Et donc vous avez plusieurs boutons sous sa description, donc un bouton qui permet d'accéder à la page du jeu de données sur le GBIF, un autre qui permet de télécharger les données et métadonnées dans un fichier ZIP. Et puis vous voyez, alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais vous verrez sans doute mieux sur la présentation une fois qu'elle sera diffusée à la fin du webinaire, il y a un petit bouton qui s'appelle EML et qui vous permet d'accéder au fichier EML des métadonnées. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément très agréable à lire à l'œil nu, mais ça va être très intéressant pour la suite, puisque c'est ce fichier EML que vous allez éventuellement pouvoir soumettre à une maison d'édition. Donc, moi, je vais vous montrer plus tard dans cette présentation l'exemple des éditions Pensoft et de leur outil ARFA Writing Tool, qui ingère très bien les fichiers EML et qui ensuite les structure pour qu'ils soient éditables et transformables, et ensuite pouvoir les soumettre dans une des revues Pensoft. Alors je parle surtout de Pensoft puisque c'est la maison d'édition historique, entre guillemets, qui a collaboré avec le GBIF dès le début pour créer les data papers. À l'heure actuelle, il y a énormément de revues et de journaux qui acceptent les data papers, donc j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat à ce niveau-là, et je vous montrerai une liste de revues sur le site du GBIF plus tard. Et donc ces revues proposent également un appui technique et éventuellement des outils automatisés pour aider à la rédaction également. Je ne vais pas tous les montrer, mais il n'y a pas que Pensoft qui propose ça maintenant. Donc voilà, comme je disais, si vous suivez cette URL, donc toujours sur le site du GBIF international, et vous ajoutez slash data papers, vous allez tomber sur une page en anglais, je crois qu'il n'a pas encore été traduite en français, qui vous décrit donc ce qu'est un data paper. Et si vous descendez un peu sur la page, vous allez trouver une liste de revues qui acceptent et qui publient des data papers liés aux données de biodiversité. Donc, alors, on ne sait pas encore si c'est très visible, mais normalement, vous avez la liste des journaux, la maison d'édition, une colonne qui vous indique si la revue est open access ou pas, les coûts de publication et ensuite, bien sûr, l'impact factor qui vous permet de choisir une revue si c'est ce critère qui vous intéresse. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de revues maintenant qui acceptent les data papers et donc il y a Nature qui s'est mis aussi depuis quelques années avec la revue Scientific Data, donc qui publie également des data papers. Alors, je vais vous présenter en quelques diapositives assez rapides l'outil Alpha Writing Tool d'OpenSoft. Je ne sais pas si Anne-Grette pourra peut-être compléter dans son intervention si elle l'a utilisé. Donc, c'est un outil, comme je disais, parmi d'autres, d'aide à la rédaction de data papers et notamment à ceux qui sont soumis aux différentes revues, il y en a pas mal, des éditions OpenSoft. Donc un petit point de contexte d'abord pour présenter OpenSoft, qui est une maison d'édition de littérature scientifique fondée en Bulgarie en 1992 et qui donc a collaboré avec le GBIF dès le début des années 2010 pour développer le concept de data paper dans la communauté de la biodiversité. Donc vous trouvez ici le site internet et ce qui est assez intéressant, c'est que OpenSoft propose énormément de revues thématiques et également une revue plutôt générale pour la publication de data paper qui s'appelle le Biodiversity Data Journal. Donc OpenSoft, assez tôt dans le processus, a mis en place un outil de rédaction des data papers, enfin des articles en général, mais notamment des data papers, l'outil ARFA, qui facilite la mise en page, la soumission, la relecture, la publication et éventuellement l'hébergement et l'archivage des articles scientifiques. Donc c'est un outil qui est assez intuitif et facile à utiliser et qui permet notamment. Voilà, donc je vous prends juste une capture d'écran de l'outil. Donc vous retrouvez toutes les catégories possibles d'un data paper, donc notamment le titre, les citations, et ensuite les sous-catégories de description des données. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez, quand vous soumettez un data paper, le proposer suivant deux voies de publication possibles. Soit une voie qu'on appelle la voie par document, donc c'est-à-dire vous avez un document texte que vous avez commencé à rédiger, puis vous le soumettez à la maison d'édition. Ou sinon, comme je disais tout à l'heure, vous récupérez le fichier eml.xml, donc c'est une extension XML, de vos métadonnées, et vous pouvez l'intégrer directement dans l'outil qui va l'analyser, enfin l'interpréter, et vous proposer un brouillon de data paper en fonction de ce qui a été renseigné dans les métadonnées EML. Donc, dans tout ce workflow GBIF OpenSoft, les outils et fonctionnalités sont interopérables, mais pas qu'entre ces deux réseaux, puisqu'il y a énormément d'autres fonctionnalités. Donc, il y a des liens qui sont possibles avec Zenodo, avec d'autres entrepôts, et également les citations sont facilitées. Donc, il y a un petit outil intégré dans ARFA qui permet de bien formater les citations. Donc, ça peut être assez intéressant quand on a beaucoup de littérature à citer à la fin ou simplement pour faire des citations correctes. Donc là, ça reprend voilà, ce que je viens de dire. Donc, dans le GBIF, on peut publier un dataset, donc un jeu de données avec ses métadonnées. Et en allant sur l'outil OpenSoft, mais également sur d'autres outils, d'autres revues, vous pouvez récupérer le fichier EML, l'importer et ensuite obtenir donc un brouillon de data paper qui doit être encore soumis après à de la revue par les pairs. Bien sûr, rien ne garantit la publication d'un data paper avant reviewing. Alors j'essaie d'accélérer un petit peu. Alors voici un exemple de data paper donc publié. Via l'ARFA Writing Tool qui a été publié par une équipe de recherche de l'INRAE sur des saumons de rivière. Donc on retrouve évidemment un DOI qui doit être quelque part par là, un titre et dans le résumé, on a également le lien vers le jeu de données en question qui a été publié sur le GBIF. Donc là on retrouve le jeu de données et on peut accéder aux données ici, les télécharger, les réutiliser. Et quand on descend sur la page, on va trouver le contact des auteurs en cas de questions à poser sur les données ou même sur le data paper. Désolé pour les bruits parasites, parce qu'évidemment, c'est le jour des camions poubelles ici. Alors, en résumé, donc pour finir cette présentation, avant de passer la main à Anne-Grette pour la suite, j'ai voulu vous présenter ici donc les différents moyens de mettre en valeur les données. Donc, en vert, vous voyez l'IPT ici, l'Integrated Publishing Toolkit du GBIF, qui va générer donc ce qu'on appelle une archive Darwin Core. Donc, si vous vous rappelez, le Darwin Core, c'est le standard d'échange des données, mais ce qu'on appelle archive Darwin Core contient également les métadonnées, ici au format XML. Et ensuite, ça peut partir dans deux directions. Donc, si on suit la voie GBIF, entre guillemets, donc le GBIF va moissonner toute l'archive Darwin Core et publier un dataset avec un DOI attribué au dataset et les métadonnées associées à ce dataset. Et ensuite, si vous souhaitez publier un data paper, vous pouvez récupérer le fichier XML, l'intégrer donc dans l'Alpha Writing Tool ou dans tout autre outil d'aide à la rédaction de data paper, ce qui va vous permettre, sous réserve que votre data paper soit accepté après review, de publier un data paper qui aura donc, lui, son propre DOI. Et si vous souhaitez également publier un article de recherche réalisé grâce aux données que vous avez partagées, donc là, vous suivez le processus habituel de rédaction d'un article, vous soumettez une revue scientifique qui, là également, après reviewing, accepte ou non de publier votre article qui aura son propre DOI également. Donc, on se retrouve avec trois éléments. Le jeu de données lui-même et ses métadonnées avec son DOI. Le data paper qui décrit le jeu de données qui aura lui-même son DOI. Et éventuellement, un article de recherche qui aura son propre DOI également et qui va citer le jeu de données et éventuellement le data paper. Donc, j'espère que ce schéma est pas trop, il reste compréhensible. Mais c'est assez intéressant de voir les liens qui peuvent exister entre les différents éléments et l'importance des DOI pour pouvoir citer chaque article et chaque dataset et faire les liens qui sont vraiment très, très utiles entre chaque élément de cette figure. Donc, je pense que j'en ai fini avec ma présentation. Donc, s'il y a des questions, j'espère qu'on aura le temps d'en prendre quelques-unes.
Sophie, oui. Je vais t'en prendre quelques-unes. Je propose, étant donné qu'il y a beaucoup de questions, je propose que celles auxquelles on ne pourra pas répondre, on y répondra par le groupe de travail de manière écrite. Donc, je vais t'en poser quelques-unes que j'ai notées. Avec le plan de gestion de données et les métadonnées associées au jeu de données, n'y a-t-il pas un double emploi avec le data paper? Donc, en gros, est-ce qu'il n'y a pas un double emploi entre le PGD et le data paper?
Ce que je dirais, c'est que le data paper, comme ça a été, ça rejoint une question qui a été posée pendant la présentation de Stéphane, c'est que le data paper a quand même une meilleure visibilité, que ce soit au niveau thématique ou, pour mettre en valeur le jeu de données et s'assurer qu'il soit vraiment connu et visible du plus grand nombre, un data paper va permettre de le mettre en valeur de façon beaucoup plus visible et accessible. Quoi. Il sera diffusé dans une revue scientifique avec un DOI, il sera citable. Donc c'est quand même quelque chose qui est plus pérenne et plus. Enfin, pas plus pérenne qu'un PGD, bien sûr, mais plus visible et donc sur les revues par exemple qui publient les data papers, on peut faire des recherches par article, enfin, c'est plus accessible à mon sens.
Une autre question, quelles données méritent un data paper plutôt que d'être une simple annexe à l'article scientifique?
Pardon Henri, j'ai pas entendu le début de la question.
Quelles données méritent un data paper plutôt que d'être une simple annexe à un article scientifique?
Alors ça, c'est une bonne question. Je dirais que dès le moment où on pense avoir un jeu de données intéressant qui n'a pas forcément été décrit ou pas mis en ligne, mais disons qu'en théorie, n'importe quel jeu de données peut être décrit sous la forme d'un data paper. Après, ça dépend du comité de lecture de la revue dans laquelle vous soumettez et des échanges que vous pouvez avoir avec la maison d'édition. Si la maison d'édition juge que vos données sont assez intéressantes pour mériter entre guillemets un data paper, il y aura pas de souci. C'est vrai que nous on a eu en France, côté GBIF France, on fait la liste des jeux de données, des data papers qui ont été publiés depuis plusieurs années, et on a vraiment des jeux de données très différents qui sont décrits. Donc on a un data paper qui a été publié dans Scientific Data de Nature sur la numérisation de l'herbier de Paris par exemple, qui représente des millions de données, Mais on a également des data papers qui décrivent des collections qui sont toutes petites et qui étaient intéressantes d'un point de vue scientifique. Donc ça veut, c'est pas la taille du jeu de données qui justifie ou non la publication d'un data paper. C'est vraiment l'intérêt des données. Donc moi je dirais que chaque jeu de données peut valoir la peine de rédiger un data paper si vous souhaitez prendre ce temps-là.
Une dernière question, Stéphane, tu me coupes lorsque tu es maître du temps. Là. Une question particulière sur le format NetCDF. Sur le format NetCDF, pour préparer des jeux de données, y a-t-il des recommandations de la part des data papers?
Alors là, j'avoue que je ne peux pas y répondre parce que c'est pas un format que je connais bien et qu'on utilise au sein du réseau GBIF, mais je peux me renseigner, il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Bon. Existe-t-il des outils libres de rédaction de data paper?
Alors pour la rédaction, vous pouvez utiliser n'importe quel outil. Un data paper, ça reste un article scientifique. Donc si vous souhaitez commencer la rédaction avec un outil libre, il n'y a absolument pas de souci. Après, pour les outils d'aide à la rédaction, comme le ARFA Writing Tool, par exemple, il ne me semble pas que ce soit libre et j'ai bien peur que, quelle que soit la revue, les outils d'appui à la rédaction soient forcément au format propriétaire, entre guillemets, de la maison d'édition qui les propose. Donc de ce côté-là, je ne pense pas pouvoir répondre pour l'affirmative.
Je pourrais éventuellement apporter aussi quelques compléments. Un data paper étant publié classiquement dans une revue ou un journal, celui-ci met à disposition des templates, des modèles qui permettent déjà de connaître et de suivre la structure spécifique du data paper. La solution du GBIF qui permet une certaines automatisations pour préparer une trame de data paper qui viendra être ensuite complétée par l'auteur. On le retrouve également dans le Dataverse, qui est une autre solution également. Donc il y a plusieurs possibilités de suivre les recommandations ou des systèmes plus ou moins automatisés de génération de trame de data paper. Ce n'est pas la génération d'un data paper, mais c'est une trame qui devrait être reprise ultérieurement.
Oui. Et d'ailleurs, je profite pour ajouter que je n'ai pas forcément insisté dessus dans ma présentation, mais excusez-moi, j'entends un peu d'écho. Dans le fichier EML, donc bien sûr, on n'a pas d'image ou pas de représentation cartographique ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui peut être ajouté après, lors de la rédaction du data paper EML. Vous récupérez les métadonnées au format RTF ou EML, et vous pouvez ensuite, bien sûr, les illustrer avec des images, des liens, des graphiques au moment de la rédaction du data paper. C'est pas parce qu'il n'y a pas ce genre d'informations dans l'EML qu'ensuite on ne peut pas les ajouter par la suite.
Une dernière, elle arrête. Y a-t-il des data papers qui sont publiés par des groupes d'utilisateurs et non pas par les producteurs? Si oui, est-ce que cela change les objectifs des data papers?
C'est une bonne question. Il ne semble pas m'avoir vu à ma connaissance. Puisque généralement les données sont, quand elles sont réutilisées, font plutôt l'objet d'articles de recherche et pas de data paper. Alors, le principe du data paper, c'est de décrire des données, donc je pense que ce sont les personnes qui publient les données qui sont les plus à même de les décrire. Mais effectivement, je pense que techniquement, en théorie, ça peut être possible, mais j'ai jamais rencontré ce cas de figure.
Sur le principe de la réutilisation des jeux de données mis à disposition, les intégrer dans une autre recherche, compléter ces jeux de données initiaux, développer l'étude et reproduire potentiellement d'autres jeux de données amplifiés peuvent donner lieu aussi à d'autres data papers, puisque la transformation du jeu de données initial peut nécessiter une description supplémentaire d'une méthodologie appliquée à une nouvelle utilisation. On va peut-être s'arrêter là pour les questions et je vais passer la parole à Negret Nicolai, qui est chercheur en biologie de la conservation et économie écologique, ainsi que chargé de mission biodiversité et données à la station biologique de Paimpont, Université de Rennes 1, tout en menant des recherches sur la protection des gastéropodes terrestres et sur les valeurs de la biodiversité du sol en lien avec les décisions de gestion et d'aménagement. Annegret Nicolai assure pour la station biologique de Paimpont la coordination de projets sur la biodiversité dans le territoire, l'acquisition de données en relation avec les fournisseurs de données sur le territoire également. Et je lui laisse la parole donc pour ce retour d'expérience quant à l'utilisation donc des outils du GBIF pour la production d'un data paper.
Merci Stéphane, bonjour à tout le monde. Avant que je commence, Stéphane, juste une petite question technique sur le PDF. Il n'y a pas de... Les titres ne sont pas lisibles.
Aïe. Je vais essayer de le recharger. Recharger la présentation. Donc on va... Confirmer. Est-ce que... Tous les titres sont comme ça, oui.
Bon, je vois sur le PDF que je t'ai envoyé, ils sont bien là, mais bon, après, on peut peut-être aussi faire sans les titres.
Effectivement, ils sont bien là. J'essaie de recharger rapidement peut-être une nouvelle version. Excusez-nous. A priori, c'est le même problème. C'est le même problème.
Oui. Bon, bah, on va faire sans.
Désolé.
Non, c'est pas. Par contre, il faut que tu me passes la main pour que je puisse passer.
Voilà.
Ok, super. Merci. Bon, moi, je voulais vous faire un petit retour d'expérience sur un événement de BioBlitz que nous avons organisé à la Station biologique de Paimpol en 2017 et qui a donné suite donc, à la publication d'un data paper. Et là, du coup, c'est un data paper issu de Sciences Citoyennes. Donc, brièvement, qu'est-ce que c'est un BioBlitz? Un BioBlitz, c'est un inventaire éclair de la biodiversité, où on va étudier tout AXA confondu sur un territoire ou sur un espace donné. Et si ce type d'événement de sciences citoyennes vous intéresse plus, vous pouvez regarder donc, dans le policy brief qui a été publié par le projet d'Horizon 2020 d'ITOS, qui s'intitule « Le BioBlitz, promouvoir la recherche transfrontalière et des pratiques collaboratives pour la conservation de la biodiversité ». Comment s'organise un BioBlitz? Il y a beaucoup de gens qui participent, il y a un certain nombre de scientifiques, de naturalistes, d'étudiants et de citoyens curieux qui participent à trois étapes de ce BioBlitz, à un échantillonnage donc de la biodiversité sur l'espace, après à un tri à identification des données, et ensuite des espèces, et ensuite à saisir les données et à les cartographier. Donc, ils sont vraiment impliqués dans un processus scientifique du début jusqu'à la saisie de données. Les variables que nous avons échantillonnées ou qui sont sorties de cet événement de sciences citoyennes sont des variables essentielles de la biodiversité, surtout sur la diversité taxonomique, donc à l'échelle locale. Et qu'est-ce qui nous a aussi emmené à organiser un BioBlitz sur les terrains de la station biologique? C'est justement cette contribution à des données dans le GBIF, à des données de biodiversité dans le GBIF, qui pour l'instant la science citoyenne contribue pour l'instant à 55% de ces données. Et nous avons aussi observé qu'en France, en fait, cette science citoyenne contribue à très peu de données dans le GBIF. Donc là, c'était vraiment une motivation qui nous a poussé à faire cet événement et ensuite à emmener jusqu'à la publication de données et aussi à faire ce data paper. Il y a aussi certains bénéfices sociétals qui sont associés à un BioBlitz qu'on voulait mettre en avant en publiant le data paper. C'est la possibilité que ces données peuvent contribuer à la gestion de l'environnement et aux politiques publiques, à la sensibilisation et l'engagement actif des citoyens et bien sûr à la contribution de la recherche. Donc, le résultat de cet événement, de ce BioBlitz, en quelques chiffres, nous avons eu 200 participants à peu près, dont 75 experts, il y avait des volontaires européens, il y avait des citoyens du territoire qui ont participé, en tout 5 universités internationales, MNHN, des associations naturalistes et bien sûr les citoyens de Rennes et de Procyonde. Nous avons échantillonné 43 zones dans différents habitats sur 17 hectares. Et le résultat en nombre d'espèces, c'était qu'on a observé 660 espèces avec 1819 occurrences. Donc, les occurrences, c'est une observation d'une espèce à un moment donné, à un endroit donné. En plus, pendant cet événement, nous avons aussi fouillé toutes nos archives que nous avons à la station depuis 60 ans pour augmenter encore cette liste d'espèces, donc sur les 60 ans d'observation de biodiversité sur les terrains de la station. Donc, vous avez en dessous un petit graphique qui montre un peu cette distribution dans les groupes taxonomiques. Il y avait surtout des arthropodes, donc des insectes, des araignées, qui étaient observés, des oiseaux et des plantes, mais aussi d'autres groupes un peu moins accessibles, je dirais, comme les bactéries ou les rotifères, qui sont assez petits et cryptiques. Bon, il y avait quelques chiffres en plus qui sont intéressants, parce que c'était un événement qui accueille beaucoup de monde, donc il y avait beaucoup de soupe consommée, mais aussi de la bière. Mais ceci n'apparaît bien sûr pas dans les données GBIF ni dans le data paper. Donc cet événement a donné suite donc, à la publication des données dans le GBIF. Ça ressemble un petit peu à ce que vous avez montré Sophie tout à l'heure. Donc c'est ça, comme le dataset apparaît donc, sous le GBIF, vous avez donc, le nom du dataset avec les données associées, donc le nombre d'occurrences au total, s'ils sont datés avec les coordonnées GPS. Et vous voyez ici aussi, à droite, apparaît le nombre de citations de ce jeu de données. Vous avez le DOI associé avec donc une citation recommandée. Nous avons, comme Sophie a expliqué, le GBIF utilise surtout le Darwin Core. Donc, les données sont organisées dans Darwin Core. Quand vous établissez en fait le jeu de données avec ce Darwin Core, vous avez un nombre de colonnes minimales que vous pouvez après augmenter avec des colonnes supplémentaires qui existent dans ce type de template. Comme vous le souhaitez. Donc le nombre minimal est là, il faudrait essayer de le remplir un maximum si c'est possible. Et ensuite vous ajoutez les colonnes qui sont intéressantes. Là on a fait un effort de remplir certaines colonnes qu'on trouvait importantes pour mieux prendre en main le jeu de données après ou l'utiliser à différentes fins. Donc je vous ai mis quelques exemples que je trouvais importants. C'était par exemple qu'on a ajouté le statut de liste rouge en Europe, en France et aussi au niveau régional, dans une colonne qui s'appelle Organisme Remarks. On a aussi ajouté le Establishment Means, qui veut dire d'indiquer si c'est une espèce native ou introduite, et aussi la colonne sur l'habitat où on a fait l'effort d'ajouter tous les codes UNIS de l'habitat où on l'avait trouvé. Donc, ça, c'est une information intéressante. Et ensuite aussi, une information comme les associated occurrences. Donc là, par exemple, on peut lier des observations entre elles. Un exemple, nous avons utilisé, par exemple, un protocole SPIPO, donc de sciences citoyennes de vigie nature, qui observe des insectes sur des fleurs. Et donc, on a pu associer donc, l'insecte à la fleur observée en même temps. De même, par exemple, pour les lichens sur des troncs d'arbres. Après aussi, la colonne Sampling Protocol, où on a indiqué une référence courte au protocole qui ensuite est plus expliquée dans le data paper ou dans les métadonnées. Donc, les métadonnées bien remplies dans un premier temps permettent donc description de l'étude, du site et le contenu du jeu de données. Et je dirais, ce sont les éléments basiques pour le data paper. Et comme Sophie l'a dit aussi, on peut ajouter d'autres informations plus tard dans le data paper. Ce que je vais vous montrer, ce que nous avons fait aussi dans notre cas. Associé à ce jeu donné est donc une page du publisher qui est assez intéressante aussi, puisque cette page-là elle réunit bien sûr toutes les datasets qu'on publie. Dans notre cas, pour l'instant, c'est un seul dataset avec, que je vous présente ici. Mais par la suite, donc, vous pouvez aussi avoir d'autres datasets donc, qui sont associés à vous. Et vous avez le moyen ici, sur cette page-là, de donner un peu plus d'informations aussi sur, sur vous en tant que publisher. Donc, l'information que nous avons mise sur nous, enfin sur nous, ce qui est la station biologique de Pimpon, et un peu le contexte, contexte local sur la recherche qui est faite chez nous, quel accueil se fait, donc les chercheurs en visite, mais aussi l'enseignement qui fait donc des études sur le terrain et la médiation scientifique. Donc ce qui ici est important pour nous, c'est de mentionner que c'est l'enseignement et par les sciences citoyennes, on a des données qui datent donc il y a 60 ans, donc qui commencent en 1956. Ensuite, nous avons donc produit le data paper qui décrit cet événement de BioBlitz avec ces données. Et comme vous pouvez déjà voir dans le titre, Transdisciplinary BioBlitz, Rapid Biotic and Abiotic Inventory allows studying environmental changes over 60 years at the Biological Field Station of Pimpon and opens new interdisciplinary research opportunities. C'est que notre échantillonnage allait bien au-delà de la biodiversité. On avait beaucoup de données annexes, des données de paramètres physiques, chimiques, mais aussi de données sociologiques qu'on voulait mettre en avant, ou vous voulez au moins montrer où on peut retrouver ces données et de aussi les valoriser un petit peu dans ce data paper déjà. Donc, nous avons publié ce data paper avec le Biodiversity Data Journal qui est apparu tout à l'heure dans la liste de Sophie, qui est donc un peu le data journal pour les données de biodiversité le plus ancien. Donc, dans ce data paper, maintenant, on a eu l'occasion d'ajouter beaucoup d'informations au-delà de l'information qui est déjà contenue dans les métadonnées du jeu donné. Donc, on a ajouté, par exemple, une cartographie détaillée du site d'études avec justement les zones étudiées. Donc, dans le jeu donné, il y a les différentes zones qui apparaissent. Avec les coordonnées GPS, bien sûr, mais ici, on a donc une cartographie, donc visualisation plus de terrain d'études. Ensuite, on a bien sûr pu détailler beaucoup plus les protocoles, donc avec des schémas associés ou des cartes associées. Donc ça, ça aussi, c'est un avantage pour encore mettre l'accent aussi sur les différents protocoles utilisés. Et on a pu aussi déjà commencer à faire une, je ne veux pas utiliser le mot analyse, mais un peu regarder à l'intérieur des données pour les synthétiser un petit peu, pour mettre en avant certaines choses. Donc, par exemple, on a mis un tableau dans ce genre pour montrer les données que nous avons eues sur 60 ans, par exemple le nombre d'espèces qu'on avait observées sur 60 ans, le nombre d'espèces ont été observées lors du jour du BioBlitz, et donc le nombre d'espèces qui se sont ajoutées, qui sont nouvelles grâce à cet événement du BioBlitz. Ce qui en soi aussi une information intéressante. Ensuite, on a aussi mis l'accent un peu sur sur une partie du jeu de données qui peut être particulièrement intéressante. Bien sûr, pas sous ce format-là. Là, c'est vraiment une présentation plus visuelle. Mais on a quand même, dans le data paper, indiqué que nous avons un jeu de données sur les oiseaux d'une série de temps entre 1968 jusqu'à 2017, assez complet, où on peut observer une certaine tendance qui, de présence ou plutôt de disparition de certaines espèces d'oiseaux. Dans ce data paper, on a pu aussi indiquer un peu des espèces ou des observations qui sont intéressantes, comme des espèces typiques du territoire, des espèces rares, des espèces nouvelles qui ont été observées lors de cet événement. Et nous avons surtout aussi on a pu ajouter des jeux de données qui sont donc annexes à ces jeux de données de biodiversité. Par exemple, les données météo sur 60 ans, là c'était plutôt comment pouvons-nous les accéder. Les paramètres du sol, les profils d'eau qui ont été mesurés, donc ils sont en document annexe à ce data paper, donc on peut consulter en plus des données de biodiversité. Et nous avons aussi réalisé une observation du paysage avec une méthode plus sociologique, donc des photographies à différents moments donnés. Donc on a cherché des photos en archives qui datent de jusqu'à 100 ans et on a refait des photographies. Donc là aussi, il y a un lien d'accès à ces données-là et aussi un petit exemple de comment on peut utiliser ce genre de données avec des données de biodiversité. Donc, le grand avantage ou l'impact de ces données qu'on a pu observer, donc les données sont accessibles pour la recherche, ça se voit très bien avec les 21 citations qui ont été faites en 11 mois. Donc, le jeu de données est bien utilisé. On voit que sur l'ensemble des données existent sur un territoire plus large, nos données ont quand même augmenté le nombre de données disponibles. Donc, vous voyez sur le graphique là ici qu'en 2017, avec cet événement-là, nous avons pu quand même observer augmenter la disponibilité de données. Et on peut aussi voir des projets émerger sur le territoire qui intègrent ces données dans les plans de gestion d'aménagement sur le territoire. Maintenant, je fais un petit catalogue d'avantages et aussi des limites que j'ai pu voir dans le processus de publication de données et après de publication de data paper. Donc, l'avantage du data paper, c'est qu'il y a vraiment une visibilité de ce jeu de données et aussi une reconnaissance de cette publication de données, puisque c'est bien sûr la publication d'un papier scientifique qui compte avant tout et pas le jeu de données en soi, et aussi la reconnaissance en fait pour tous les auteurs. Donc là, pour la science citoyenne, vous avez vu que le nombre d'auteurs sur notre data paper était énorme, parce que nous avons bien sûr invité tous les participants à participer dans le data paper, donc c'était après leur choix de le faire ou non. Donc il y a, je crois, 75 auteurs qui sont des scientifiques, des naturalistes, mais aussi des citoyens qui ont vérifié leurs propres données, encore une fois, qui ont contribué à l'écriture. Donc, tous les avantages des données annexes, dont les paramètres abiotiques, paysages, les entretiens sociologiques, dont les entretiens qu'on a réalisés pendant l'événement. On pouvait aussi décrire le contexte géographique, historique, les pratiques de gestion, usage des terres, le paysage, un peu plus en détail dans le data paper, plus qu'on peut faire dans les métadonnées. On peut lier d'autres ressources scientifiques, d'autres publications qui peuvent encore donner des informations supplémentaires. Donc, ce que j'ai fait aussi, j'ai ajouté une liste de publications et de sources de données disponibles en géologie, en paléobotanique sur le territoire. Donc, la cartographie et bien sûr les méthodes détaillées. Les limites, c'est ce que j'ai vu, mais je ne sais pas si c'est peut-être lié à moi parce que je n'ai pas encore fait cette étape, mais le data paper n'est pas automatiquement associé aux données. Donc, quand il y a une citation du jeu de données, la citation ne revient pas forcément au data paper. Donc, en fait, les utilisateurs de données ne lient pas forcément le data paper à cette utilisation. Après, dans le processus de dépôt de données, il y avait des choses comme des espèces qui n'étaient pas reconnues dans la taxonomie GPF, donc il y a mis une certaine limite parce qu'on se retrouvait avec des espèces, des noms d'espèces transformées et fausses qui étaient impossibles de corriger, et où on a perdu un niveau d'identification d'espèces. des difficultés avec les accents de la langue française, c'est peut-être un détail, mais ça ajoute énormément de travail parce qu'il faut reprendre le fichier plusieurs fois parce que les lignes sont décalées, les colonnes sont décalées. Voilà. Aussi, ce qui était assez étrange, on a perdu des occurrences dans le processus. Voilà, donc c'était mon petit retour d'expérience sur cet événement de BioBlitz et la publication du data paper. Et si vous avez des questions.
Merci à Margaret. On a effectivement, il y a quelques questions qui ont été posées. Alors, je passe sur les échanges autour de la bière consommée, mais pour passer aux questions, question d'Émilie, comment avez-vous validé la qualité de l'identification des différents taxons, notamment celle réalisée par les citoyens curieux?
Donc, c'était un processus que nous avons mis en place déjà lors du BioBlitz. Donc, si les citoyens se mettaient à identifier, ils n'étaient jamais seuls. Donc, il y avait toujours des experts autour et avant que leur espèce était validée, donc était, on avait un petit système avec des étiquettes et tout ça, l'étiquette était passée à la personne qui a saisi les données, il y avait une vérification avant.
Merci. Encore Émilie, 21 citations. Savez-vous qui l'a réutilisé, qui a réutilisé ces jeux de données? Est-ce dans le cercle des auteurs ou est-ce des personnes que vous ne connaissiez pas?
Oui, c'est des auteurs que je ne connais pas. Je n'ai pas encore vérifié pour les 21. J'avais regardé il y a quelques mois un petit peu. C'est des gens que je ne connais vraiment pas et c'est pour des utilisations très diverses dans d'autres études.
Et Marie-Claude, oui.
Oui, vous pouvez aller regarder qui les a utilisés en cliquant en fait sur les citations dans le GPF.
Juste pour compléter, si vous allez dans les citations, vous pouvez aussi retrouver les recherches qu'ont fait les personnes qui ont cité cet article. Donc, ça permet de savoir exactement quelles données ont été utilisées, si c'est l'intégralité du jeu de données ou si au contraire c'est une partie qui a été utilisée en fusion avec d'autres datasets, par exemple.
Question de Marie-Claude, est-ce que vous pensez que votre data paper a plus de chances d'être bien évalué qu'un data paper contenant juste les métadonnées?
Ça je ne sais pas. Je sais que le retour des reviewers était très positif dès le départ parce qu'ils avaient remarqué, enfin je me rappelle cette remarque très générale au début, c'était que c'était... très complet avec des données annexes en plus qui étaient intéressantes pour bien utiliser le jeu de données. Enfin, c'était quelque chose dans ce genre, donc c'était plutôt positif, oui.
Et je crois qu'on a encore deux questions. Michel, en France, en Europe, existe-t-il une norme, un standard, des préconisations pour créer un data paper cohérent? Est-ce qu'il y a des recommandations émanant d'Europe, par exemple?
Pour ma part, je n'en ai pas connaissance encore. Ça rejoint un petit peu la réponse qu'on a faite sur une question précédente. C'est en fait les recommandations qui sont liées aux journals et aux revues, mais qui ne sont pas, enfin, qui sont propres à chaque comité éditorial, à chaque politique éditoriale.
Et enfin, non, j'ai encore deux ou trois questions, on verra en fonction du temps, Stéphane. On a le temps. Bon, donc Simon, un data paper non cité est-il considéré comme une fraude?
C'est en relation avec le fait d'utiliser les données, le jeu de données, et non pas citer le data paper associé, c'est ça?
Je pense, oui.
Simon, ben, clairement,
c'est ça, il dit oui.
Alors, peut-être une réponse qui sera à compléter ou à moduler, mais le jeu de données a lui-même son propre identifiant, donc assure une certaine paternité du déposant. Il y a normalement aussi une licence de réutilisation. Je ne suis pas sûr que ce soit considéré comme de la fraude de ne pas citer le data paper. En revanche, vérifier, ça c'est une pratique qu'on pourrait presque dire bonne, vérifier que le data paper, qu'un data paper existe sur le jeu de données qu'on souhaite réutiliser, permet de s'assurer de sa qualité et donc qu'il y a bien eu une expertise aussi du jeu de données. Donc, c'est pas réellement une réponse à la question, mais c'est aussi une démarche que l'on est amené à faire, de s'assurer de l'existence d'un data paper sur la donnée qu'on va réutiliser. Et connaissant l'existence du data paper, la citation va avec.
Dans la pratique, ce qu'on observe avec notre jeu de données, c'est que le jeu de données il est cité, mais le data paper ne l'est pas. Donc, dans la pratique, il n'est pas forcément associé. Je ne sais pas s'il est facilement retrouvable. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est peut-être moi qui n'a pas encore fait la manip, qu'il faut vraiment associer le data paper au jeu de données une fois qu'il est publié. Donc, je ne sais pas si Sophie peut peut-être répondre à ça.
Sophie, tu as des réponses
Pour le moment, c'est une manipulation effectivement qui est manuelle, entre guillemets. Juste pour recontextualiser, on peut publier un data paper que quand le jeu de données est déjà accessible en ligne. En intégralité. Et donc, côté GBIF, on peut éditer les métadonnées du data paper pour y ajouter par la suite le DOI du data paper quand celui-ci est disponible, par exemple. Je crois que Mohamed avait répondu également dans le chat à propos des liens entre DOI. Donc, c'est possible de faire des liens pérennes entre DOI une fois que les différents éléments, donc dataset, data paper et éventuellement articles scientifiques sont publiés. Donc, en tout cas, moi je sais que côté pour le jeu de données, on peut éditer et ajouter un DOI vers un data paper. Après, ça ne va pas garantir que les citations du jeu donné vont forcément reprendre le data paper. Là, ça permet juste de donner un peu plus de visibilité au data paper au niveau du dataset.
Merci Sophie. Alors, Anaïs demande s'il y aura-t-il d'autres éditions de BioBlitz. Ça donne envie de participer.
Oui, bien sûr, on est parti pour faire des BioBlitz à des moments réguliers, on va dire, dans des espaces de 5 ans à peu près. Donc là, prochainement, il va y avoir un autre BioBlitz sur nos terrains. Mais vous pouvez aussi, parce que dans la région, nous avons organisé d'autres. Donc sur Rennes, sur les campus, il va y avoir à Vigeon probablement un l'année prochaine.
Alors, au niveau Magali, au niveau de la cohérence, parlez-vous de la granularité? C'est un peu général, je crois, ou ça, je sais que j'ai pas plus de précision par rapport à ça. Bon, peut-être si Magali pourrait préciser dans le chat, je passe à la question suivante de Catalène. Comment promouvoir les principes FAIR si les data papers sont publiés dans des journaux propriétaires à accès payant? C'est une question plus générale, c'est pas vraiment. Ça ne concerne pas uniquement les data papers.
Ça, c'est un choix stratégique, je dirais, un choix politique aussi.
Alors, Anne, est-ce que ce n'est pas mieux de faire évoluer les conditions de dépôt dans un entrepôt avec review?
Alors ça, c'est. Voilà, j'avais noté cette question aussi. Je pense que ça sera difficile d'y répondre en un mot. Peut-être que c'est une question qu'on pourrait garder aussi pour la fin du webinaire et entamer une discussion là-dessus. Je pense que les systèmes liés au data paper, notamment puisqu'on en parle aujourd'hui, mais aux modalités de publication au sens large, évoluent énormément et ne sont pas statiques, loin de là, et sont diverses. Cette notion d'associer potentiellement au sein de l'entrepôt la review, donc potentiellement le data paper, est-ce que j'extrapole trop? Pourquoi pas, mais pour l'instant personne ne le propose à ma connaissance. À voir dans l'évolution des modalités de publication.
Alors, question de Marie-Claude, ça veut peut-être dire que les jeux de données et trouver indépendamment du data paper. En fait, c'est une réaction, non, c'est pas une question. Je passe. Émilie, et comment ça se passe si les jeux de données évoluent? Les data papers associés, publiés à un instant ne sera-t-il plus à jour?
Alors, dans notre cas, c'est le data paper est lié à une version du jeu de données. Et bien sûr, nous, on va mettre à jour ce jeu de données parce qu'on a encore des données qu'on retrouve dans les archives, donc on voudrait ajouter au cours du temps. Mais le data paper est lié à à une version bien précise de ce jeu de données. Ça, c'est indiqué.
On va peut-être s'arrêter là et garder les autres questions. Et garder les autres questions pour la fin du webinaire, hein, pour y revenir aussi sur des questions plus générales. Alors, on a débordé un petit peu sur le planning, mais on a quand même une petite marge. Donc, je vous propose de prendre le quart d'heure de pause qui était consacré et de revenir à 11h pour suivre la suite des présentations.